vous avez foutu ce soir au restaurant ? Dis-moi. Mais Alban hausse les épaules très calmement.
On n'a rien fait. Qu'est-ce qui te prend ?
Et Alexandre se met à crier d'une voix aiguë d'enfant en colère. Menteur ! La serveuse vous a vu, et moi aussi, j'ai vu. Mais Alban conserve son calme.
Je ne comprends pas ce que tu racontes. T'es bourré ?
Nous, on va se coucher. Et il tourne le dos à Alexandre pour rentrer dans la villa, et Alexandre crie. Tu me prends pour un con, reste là. Ne me tourne pas le dos. Et il agrippe la chemise d'Alban qui se retourne et le repousse violemment. Et Alexandre tombe en arrière contre sa moto qui se renverse. Quand il se relève, Chérine voit qu'il s'est blessé au bras gauche, peut-être avec un calepied de la moto. Il saigne un peu. Il regarde sa blessure. Il regarde Alban. Il serre les poings. Chérine songe brièvement qu'elle ne devrait pas attendre une minute de plus. Elle pourrait faire sa valise, partir tout de suite. Mais elle n'a ni véhicule, ni endroit où aller, et il est 2 heures du matin. Il est trop tard. Est-ce qu'il a proféré des menaces à ce moment-là ? Non. Il n'a rien dit du tout. Il a pris sa moto, il est parti. J'ai plutôt eu l'impression qu'il allait se mettre à pleurer. Le lendemain soir, ils sortent du Bamboléo. Quelqu'un suggère d'aller manger une glace sur le port et ils redescendent à pied de la haute ville. Chérine entend d'abord monter depuis les bars un grondement indistinct où se mêlent des lignes de basse, la pulsation des boîtes à rythme, le flux du sang, les battements de cœur d'une énorme bête fiévreuse à la laine de ciste, de bile noire et d'alcool. Tout est illuminé, les terrasses, le salon des yachts sur le port de plaisance et 11 ponts d'un bateau de croisière dont l'ombre monstrueuse s'étend depuis les ferries jaunes et rouges chétivement amarrées à ses côtés jusqu'aux premières ruelles de la ville basse. Et Chérine entend maintenant les notes cristallines des claviers et des guitares, la cloche du petit train qui se fraye un chemin au travers de la foule des touristes, des cris et des rires, des bribes de conversation dans toutes les langues, le tintement des assiettes et le bruit du verre brisé, et elle s'enfonce dans cette foule de plus en plus compacte. Elle s'arrête un instant et jette un coup d'œil derrière elle pour vérifier qu'Alban, Arthur et Charlotte ne l'ont pas perdu de vue. Elle attend qu'ils l'aient rejointe pour se remettre en marche. Un moteur de corps inconnu frôle le sien. Des enfants pleurent et tapent du pied en hurlant. Toutes les terrasses des glaciers sont bondées. De toutes les terrasses jaillissent des musiques hétéroclites jouées sur des sonos poussés à fond, baffles tournés vers les quais, crachant les lignes de basse, la pulsation erratique des boîtes à rythme, la superposition de mélodies devenues méconnaissables. Et alors qu'elle avance encore, cherchant du regard une table libre, elle entend, malgré la cacophonie, le hurlement persistant d'un enfant qui pleure et tape du pied. Et elle ne comprend pas comment elle peut entendre encore alors qu'elle n'a pas cessé de marcher, de passer devant plusieurs terrasses, toute Paris m'en bondée. Et quand elle se retourne pour essayer de comprendre ce qui se passe, elle voit la bouche de Charlotte grande ouverte, toute ronde au-dessus du masque chirurgical baissé sur le menton. La grosse bouche toute rouge et luisante de Charlotte d'où s'élève ce hurlement dont Chérine ne comprend ni la cause ni le sens. Jusqu'à ce qu'elle voie une clairière s'ouvrir soudain dans la foule des touristes qui s'écartent en cercle comme si une irrésistible force de répulsion magnétique les éloignait du centre de cette clairière où Chérine voit Alban, de dos, qui semble étreindre Alexandre Romani. Et elle voit les mains d'Alban posées sur les épaules d'Alexandre, et au-dessus de l'épaule d'Alban le visage blême d'Alexandre dont le bras droit effectue 3 ou 4 mouvements de va-et-vient réguliers, profonds, lascifs. Et elle voit les yeux d'Alexandre qui reculent maintenant pour se libérer de l'étreinte d'Alban et le repousse de la main gauche de plus en plus fébrilement. Et Chérine voit les mains d'Alban glisser des épaules d'Alexandre le long de sa poitrine puis le long de ses jambes quand Alban s'affaisse et tombe sur le sol pavé du quai. La lumière des téléphones portables braquée sur lui, ses mains crispées, la bouillie écarlate de son ventre. Oh, que ne suis-je faite moi aussi d'une subtile chair de feu, tandis qu'Alexandre reste debout, hébété dans son t-shirt sanglant, un très long couteau ruisselant à la main, pendant un temps que Chérine ne peut mesurer, mais que le hurlement continu de Charlotte prolonge et distend jusqu'à ce qu'Alexandre jette soudain son couteau et s'enfuit en courant, alors que Chérine s'agenouille près d'Alban et que de la foule